Bras zéro, brassage radio. Salut, c'est l'édition collective.
Déjà ?
Ah, trop bien. Bon ?
Et ouais, c'est que c'est la suite de notre petite série. Le deuxième volet de nos explorations du côté de la lutte. Des luttes. À se demander c'est quoi, comment on fait et qu'est-ce que ça nous fait. Dans cette édition, à nouveau des voix qu'on connaît, celles qu'on est allé chercher dans notre entourage. Des entretiens qui aiment virer à la discute à bâton rompu. On est entre nous. Ça permet de poser 2-3 choses. Mais on est entre nous, et ça réduit pas mal les 1001 dimensions de la lutte et des raisons de lutter, des façons de lutter. On se dit qu'il manque des voix, et que peut-être on n'est pas très à l'aise avec ça. Comment on se décolle de notre zone de confort? Comment on pose, nous aussi, avec nos subjectivités, à la fois proches et pourtant pas pareilles, un discours? Ou pas? Faut dire aussi qu'on a eu de l'ambition. Choisir la lutte comme petit sujet pour nos expérimentations radiophoniques.
Ah ouais, ouais, ouais. La lutte, c'est pas facile.
Alors on essaie de se la donner pour garder la mesure, si ce n'est la maîtrise, du fond et de la forme. On tâtonne, mais on en est contente, non?
Ah ouais, à fond.
Ouais, c'était cool.
Trop bien.
Bref, aujourd'hui donc, on parlera de piquets de grève, de tensions entre lutte individuelle et lutte collective, et puis d'émotion, d'intensité, de ce qui porte et de ce qui plombe. Et comme Bras zéro, c'est une émission au coin du feu, on se racontera un conte avant d'aller préparer le dernier volet de cette saga infinie. Bonne écoute.
Le commencement de la lutte, ça commence par le fait de reprendre espoir. Contrairement à l'immobilisme ou le défaitisme qui paralyse et qui fait que tu es spectateur des choses, que tu n'agis pas, la lutte elle commence au moment où tu espères et où tu prends conscience de ta force et où tu vas chercher les outils, les moyens pour voilà, faire aboutir. Ouais, putain, il y a quand même des choses, des valeurs, des principes, ouais, des idéaux qui t'animent,
utopie,
quoi. Y a...
Quand on est en lutte, ouais. C'est une utopie, c'est qu'on est en... On croit à autre chose.
En fait, je pense que j'ai toujours plus ou moins été en lutte. Enfin, pas en lutte, mais en tout cas en... Comment dire? Très, très... Enfin, assez mal et assez hyper, hyper en colère. Avec le monde dans lequel je vivais, quoi.
Soit les injustices, soit la mauvaise foi, certaines personnes, ça m'horripile. Et là, oui, j'ai envie de bouger. La mauvaise foi, ben, c'est des gens qui sont pas forcément. honnête ou une façon de voir les choses qui manipule un peu ou... C'est pas forcément fait consciemment, mais il n'y a pas de discussion possible en tout cas. Donc du coup, il n'y a pas de discussion possible, donc il y a un conflit, donc une lutte, et donc ça peut dégénérer sur un mouvement de grève.
C'était à la fois un sentiment de... Bon, d'injustice déjà qui nous animait, et aussi non seulement de porter des revendications, et voilà, de se mettre en grève, d'occuper, de... négociation.
On fait de la radio sauvage, qui va faire le ménage. Nous on fait de la radio sauvage, qui va faire le ménage. Nous on fait de la radio sauvage.
Mes questions sont les suivantes. Chers amis IES, est-ce que vous avez déjà fait la grève? Dans quel cas est-ce que vous pouvez vous mettre en grève? Et qu'est-ce qui vous empêche de faire grève?
En fait, moi, je ne savais pas si ça compte dans la grève, les grèves à la fac. C'est-à-dire, quand tu étais étudiant, si c'était aussi une grève quand tu n'allais pas. Parce qu'il y avait soit une manif, soit un mouvement qui fermait la fac. Si ça compte,
en fait, ça une grève.
C'est ça, je ne sais pas, en fait. Parce que moi, en Espagne, ouais, c'est grève. Mais en fait, Hugo, il vient de me dire que grève, c'est plus arrêter d'être payé.
Ben, finalement, après, ça peut être aussi arrêter de faire ton activité. Si tu étudies, tu arrêtes de faire ton activité, c'est une grève.
Ben ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça. Y a, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent que, que les étudiants, ils n'ont pas le droit de faire grève, ou les lycéens, ou, enfin, tu vois, dans le sens où c'est pas une activité salariée. Mais pour autant, c'est quand même...
C'est de la grève,
c'est quand même cesser l'activité pour réclamer des choses, quoi.
Ouais.
Et du coup...
Quelle que soit l'activité.
Ouais. Du coup, pour moi, c'est ça le principe de grève.
Ouais.
Ben, je suis d'accord.
Et depuis que vous êtes salarié, vous l'avez fait?
Moi, ouais. Une fois en Espagne.
En Espagne?
Mais j'étais quand même allé au boulot. Mais j'avais posé le jour de grève. Donc je n'étais pas payé. Je suis allé au boulot et puis j'avais mis sur ma blouse en grève, en gros. Et du coup, c'était bien parce que les gens m'arrêtaient et me demandaient déjà pourquoi j'étais là.
Hein?
Alors que j'étais en grève. Et puis ensuite, du coup, ça me permettait en fait... de parler de pourquoi j'étais là aux gens les proches du... enfin qui pourraient aussi entendre les raisons pour lesquelles je faisais grève parce qu'ils étaient touchés par des choses.
Okay.
Du coup, c'était cool. Je trouvais
ça. Et du coup, tu t'allais au boulot, tu travaillais.
Ouais.
Mais du coup, comme tu t'affichais en grève, tu pouvais avoir des discussions sur le pourquoi
tu étais en
grève. Mais tu n'allais pas au boulot pour essayer de débrayer ou de...
De comment ça?
Débrayer dans le sens de ramener d'autres gens à faire grève, en fait, à amener
des... Non, je travaillais vraiment. J'ai hésité quand même entre la manif, parce qu'il y avait une manif, forcément, et y aller et faire, en fait, une autre forme, enfin, profiter de ce jour de grève d'une forme différente.
Ouais. Mais t'étais tout seul à faire grève?
On n'était pas beaucoup. On n'était pas beaucoup. On devait être deux ou trois.
Si t'es dans un lieu très isolé, enfin, où t'es isolé dans la grève, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué parce que toi, tu vas peut-être te faire du bien en allant à une manif, mais du coup, c'est très en dehors de ton quotidien au travail, en fait. Enfin,
ça t'éloigne un peu
d'aller à la manif.
Du coup, c'est quelque chose que tu peux pas partager sur ton lieu de travail.
Ouais.
Moi, je trouve que ça a vraiment un sens d'aller sur ton lieu de travail quand t'es en grève, en fait. Après, d'aller y travailler. Moi, j'ai jamais. À chaque fois que j'ai fait grève, j'ai jamais été travailler. Par contre, j'ai déjà été sur mon lieu de travail ou sur mon lieu d'études. Oui, justement, d'aller discuter un peu avec les collègues, avec. Puis après, ça dépend pourquoi c'est aussi, tu vois. Mais si c'est vraiment une grève locale, par exemple, à la fac, du coup, où t'as des choses à faire pour imposer un rapport de force collective par rapport au conseil d'administration, par rapport à l'administration, par rapport à plein de choses, du coup là tu fais des actions sur ton lieu aussi de travail et du coup ça a un sens d'y être, quoi.
Ouais, ça impacte.
Mais, ouais.
Mais aussi tout ce partage de vécu collectif qui faisait que pendant un temps, en fait, le temps était comme suspendu et que il y avait plein de choses qu'on a réinventées, qu'on a créées différemment. Et voilà, ça c'est c'est complètement différent des luttes. Petites luttes qui peuvent se faire au niveau individuel.
Eh bien, c'est quand il y a des complicités qui se créent. Quand à un moment donné, tu parles avec des gens et il y a des espèces d'évidences. C'est vachement drôle parce que j'ai un peu grenouillé, un petit peu en Europe, c'est un bien grand mot, mais enfin, disons que j'ai aussi rencontré des gens un peu d'ailleurs, quoi. Et il y a des gens avec qui on est... Alors, c'est bizarre, comment expliquer Il y a des idées, il y a une complicité dans les idées, mais il y a aussi une complicité dans le faire, dans la manière de faire les choses, de parler, de... C'est ça, c'est une résonance et une complicité, comme si on avait un vocabulaire commun, mais au-delà du vocabulaire, une manière de faire commune.
Et ce truc aussi de, bah voilà, de se réunir à plusieurs meufs, concernées ou pas, pour le convoquer et pour leur mettre... le recadrer et pour réfléchir de ça et que cette situation particulière ait créé une émulation plus large où ça a parlé à plein de meufs et qu'au final ça fait écho à tout le monde et de là est née une grande AG non mixte de meufs qui vont créer des permanences par rapport aux oppressions aux oppressions et aux agressions dans le milieu militant. Tout ça, bah ça c'était trop cool, enfin c'est parce que c'est en cours et c'était trop cool je pense. Et que voilà, et c'est chouette aussi du coup, enfin il y a ce truc aussi autocritique à nos milieux où c'est pas tout le temps à l'extérieur quoi, enfin c'est pas tout le temps lutter contre un truc sur lequel on a aucune prise d'une certaine manière, bah du coup il y a ce truc où là on le sent quoi, c'est juste c'est nous, c'est autour de nous et ça nous traverse toutes et tous.
Et après j'ai l'impression d'avoir commencé à agir sur ma vie notamment, quand j'ai rencontré des gens autour du mouvement Rémi Fraisse, du coup, pour la première fois, où du coup c'était un peu dans les manifs, un peu aux occupations à la fac. Et voilà, et en fait ces gens-là c'est devenu des amis et en fait on a décidé de penser des bouts de notre vie ensemble et de penser aussi notre vie comme un peu une lutte permanente, enfin en tout cas moi c'est un peu ce que je pense, enfin ce que j'aimerais un peu arriver à faire de ma vie. Et du coup cette lutte permanente c'est tout un tas de manières de vivre, de formes de vie qui sont en inadéquation avec les formes de vie qu'on devrait avoir quoi.
Question sur les luttes, par exemple, féministes ou antiracistes, on va grave essayer, on va vraiment partir de sa pratique individuelle. Enfin voilà, poser vraiment une responsabilité au niveau individuel de chaque individu pour essayer de casser ces systèmes-là, enfin les systèmes patriarcales et racistes. Alors que par exemple pour les luttes anticapitalistes, ouais, je fais de la récup, je fais bon ou écolo, je fais des, enfin j'essaye de faire des efforts, mais je m'en tiendrais pas rigueur si c'était pas tellement le cas. J'ai moins d'exigences par rapport à ça. Et ça, je sais pas. Ça, faut que j'y réfléchisse encore. Je sais pas. Parce que c'est hyper ambivalent. À la fois, on doit essayer de lutter contre ce que l'État nous dit, notamment de... en fait, c'est juste une somme de petites responsabilités individuelles. Et si tu fermes ton lavabo quand tu te laves les dents, c'est bon, on sera libérés des problèmes climatiques, etc., etc. Et donc, ouais, bien sûr, c'est éminemment faux. Et les responsabilités, il faut les faire peser à ceux qui les engendrent, quoi. Mais à la fois, je trouve ça questionnant de se dédouaner totalement de toutes ces questions-là sous le prétexte que c'est pas nous.
Parce que c'est vrai que, par exemple, le sabotage individuel, s'il reste uniquement individuel, en fait, il...
Bah, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est...
Au final, ça marche si, en fait, il y a 40 000 personnes qui le font, même si elles ne sont pas forcément en contact. Enfin, je pense.
Je sais pas, mais ça, c'est toujours... C'est un nœud, je pense, de ce que ça peut être la lutte, quoi. Il y a des gens qui pensent que de toute manière, ils doivent lutter quoi qu'il arrive et que même s'ils le font tout seuls, ça serait insensé de pas le faire parce qu'ils sont, convaincus au fond d'eux-mêmes qu'il y a des actions qu'il faut faire à des moments-là et voilà. Et je comprends à fond ces trucs-là. Après, c'est juste que moi, j'ai l'impression que quand tu fais des trucs comme ça, un peu soit avant-gardiste, soit coupé de tout plein de trucs, bah, tu t'épuises, quoi. Enfin... Et puis, dans un certain sens, si tu le fais tout seul aussi, c'est que peut-être c'est pas ce qu'il y a à faire, quoi. Enfin, parce que peut-être ce qui est... Enfin, pour moi, ce qui est intéressant, en fait, c'est que, par exemple, les choses, elles se répondent, quoi, tu vois. Et du coup, peut-être que si toi, tu penses que c'est ce truc-là qu'il faut faire à ce moment-là, mais qu'en fait, t'es un peu tout seul à le faire, c'est peut-être que c'est pas trop le bon truc non plus, tu vois. C'est peut-être qu'en fait, il faut peut-être s'ouvrir à d'autres perspectives, à penser à d'autres situations. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je l'explique un peu mal, je pense, mais...
Alors maintenant, on va écouter une chanson qui vient du CD à venir, Hit en lutte, qui a été écrite par des meufs après le mouvement de la loi travail l'année dernière. Et le 16 juin, il y a une soirée de soutien à ce CD-là où vous pourrez écouter plein d'artistes au CSA 15 rue Roquelaine. Et la thune va aller pour la cage et pour l'ouverture d'un local féministe à Toulouse. Du coup, le 16 juin, rendez-vous au 15 rue Roquelaine pour écouter tout ça. Bonne écoute.
Matin d'un jour de mars, je partais au boulot. Un petit quelque chose dans l'air m'a fait me lever plus tôt. Un café avalé, je me hâte vers le métro.
En raison d'une manifestation, le réseau Tisséo est interrompu pour une durée indéterminée.
Déjà en retard, je repars reprendre mon auto. À peine le deuxième tournant, je me retrouve qu'éblo. Par la vitre, on me glisse, tract et café chaud. Bien en retard, une fois à bon port, les collègues me saluent. Personne en poste, le patron chouine qu'il est déçu. Car la croissance, c'est pas comme ça qu'on la relancera. Effectivement, ça ne produit plus que du café à tour de bras. Les gens se hèlent et s'empoignent, mais sont contents d'être là. Il y a dans l'air une chaleur qu'on vibrait mille fois. Allez, allez, viens boire un verre à la table des acharnés. À la santé de tout ce qui reste à inventer. Puis on dansera et on chantera. On chantera sans s'arrêter. Pour décider ensemble ce qu'on en fera après. Un café puis en route vers la manifestation. Le centre-ville tout bloqué est devenu piéton. Et on ne voit plus d'utilité pour les trottoirs. Et se glisser dans la foule mouvante et immense. Emporté par le monde qui s'élance et qui danse. Qui ne craint plus de déferler sur les boulevards.
Oh, on est beaucoup là.
Ouais, y a trop de monde.
90, 100 000 je dirais à Bunay.
Est-ce que t'as vu le camion des chipots?
Non, moi j'ai pas été devant.
Et Manu, t'as la banderole?
Attention, y'a la PAC derrière.
À la santé de tout ce qui reste à inventer. Puis on en... dansera et on chantera sans s'arrêter.
Et qu'est-ce qui vous empêcherait de faire grève?
Bah là, moi, clairement, la thune. Mais je pense que c'est le problème général. Quand tu fais grève 15 jours, et c'est là où vraiment, en plus, l'État bouge, c'est au bout de 15 jours, bah, tu peux pas être payé la moitié d'un mois. Donc, ouais, c'est sûr que ça, tu peux essayer de pousser au maximum, mais au bout d'un moment, c'est chaud.
Après, dans certains boulots, et c'est ce que tu décris un peu, mais par exemple, par rapport aux infirmières, je crois que c'est hyper compliqué dans des boulots de soignants où, en tout cas, tu es engagé à travers d'autres personnes sur des accompagnements. Il y a la culpabilisation. Quoi,
ouais, c'est clair.
En fait, moi, je fais grève, mais du coup, ça veut dire que telle personne,
va en pâtir.
Et du coup, moi, ça m'est arrivé de pas faire grève parce que j'avais des accompagnements importants avec des personnes parce que je travaillais dans le social et que du coup j'avais pas eu le temps de prévenir à l'avance. Enfin, c'est pas que j'étais indispensable, mais en tout cas à ce moment-là je savais que ça aurait pu être compliqué pour les situations des personnes.
Est-ce que t'avais fait un truc pour pallier après? Genre tracté ou le week-end, ou est-ce que tu avais eu le ressentiment?
J'en avais parlé sur mon lieu de travail.
Ouais.
On avait pris du temps pour en parler, c'était pendant le travail, du coup on avait pris du temps pour en parler entre collègues, on en parlait avec les personnes qu'on accueillait aussi sur le lieu. On avait mis une affiche dans un lieu d'accueil collectif, hein, tu vois. Mais, et après, sur des temps où je travaillais pas, je pouvais aller sur des choses qui se passaient, mais je pense que pour lutter, il n'y a pas que la grève comme moyen de lutte, quoi.
Ouais,
au contraire.
Il y a plusieurs choses.
Mmh. Ouais. Que c'est un des outils pour lutter par rapport à des trucs.
Mais tu peux être empêché aussi par rapport à ton statut.
C'est ça le truc, ouais. Des remplaçants, par exemple. Quand tu travailles comme remplaçant,
tu peux pas
dans
faire
les collèges. C'est pas que tu peux pas faire, mais en fait, c'est un peu le truc de... Imagine, tu travailles un mois, tu fais un remplacement un mois. Déjà, si tu vas pas au boulot pendant une semaine, imagine. Et bah, c'est un peu... Moi, je le trouve pas trop bien, quoi. Parce qu'en fait, tu es en train de remplacer déjà quelqu'un. Et après aussi, la pression que tu as de la vie de continuer après comme contractuel, comme remplaçant. C'est-à-dire la vie que normalement les proviseurs doivent te donner pour dire si c'est positif ou c'est négatif. Et donc si c'est négatif, normalement, ils vont pas te rappeler après. Et donc si tu vas pas au boulot, ils vont mettre sur... Bon, ça dépend, mais sûrement qu'ils vont te mettre un avis négatif pour pas y aller.
Est-ce que genre, quand tu étais en cours, au moment de la loi travail,
hein,
tu as parlé avec les étudiants ou tu pouvais parler avec les étudiants de la grève, justement?
Avec quoi?
Ouais.
Sur le sujet, par exemple, sur la loi
parce de travail. Parce qu'à la limite, tu vas en cours, tu donnes pas une leçon de grammaire, tu donnes une grosse leçon sociale de grève, et ben ça, c'est presque faire grève.
Ouais, ça, j'avais pas pensé.
Tu cesses ton activité de prof grammaire, enfin une bonne activité sociale, la cessation d'activité aussi.
Ça, c'est vrai, ouais, j'avais pas pensé à ça. Mais ça, c'est un truc que tu peux faire. C'est un peu comme le truc que t'as dit avant, quoi. D'aller au boulot, mais faire autrement.
Ouais, quelque part, ouais.
Ouais, mais faire autrement.
Par contre, tes élèves, ils te détestent parce que d'une part, tu fais pas grève et d'autre part, tu les saoules.
Bah ouais, c'est sociale. Ça. Non, mais ça dépend. Ouais, je sais pas, ça dépend. Ouais.
Que de moins en moins, je trouve, il y a d'expérience ou de mouvement collectif. Parce que si on a peur, c'est parce que l'autre la fait pas. En fait, finalement, c'est assez marrant parce que chacun a peur que l'autre la fasse pas, donc personne ne la fait quelque part. Mmh. Alors que si tout le monde la faisait.
Bah oui, bah, il pourrait pas virer tout le monde.
Ouais, il pourrait pas virer tout le monde.
C'est ça. Ou le truc des caisses de résistance, quoi. C'est le meilleur, en fait, quoi. C'est, pour moi, c'est le meilleur, la meilleure solution pour tout le monde. C'est qu'ils ont besoin de l'argent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de ne pas y aller au boulot. Ils sont payés, c'est qu'ils peuvent se permettre de ne pas être payés ce jour-là. Je l'ai dit honnêtement, tu vois, j'ai gagné suffisamment et donc il ne me faut pas, tu vois, de l'argent pour ce jour. Ça, c'est cool aussi. Mais ça, ça demande un peu de communication dans le travail entre les gens. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas trop de communication dans le travail. C'est-à-dire, le boulot, déjà, c'est une compétition. Ce n'est pas un truc coopératif.
Ouais, après, ça peut se faire en dehors, par des collectifs de lutte, par des syndiqués, par des, des syndicats.
Oui, mais le mieux, ça serait des les gens qui travaillent, par exemple, dans les labos, tu vois, dans un laboratoire, de ne pas y aller.
Ouais.
Personne, en fait. Et ça, ça arrête réellement la productivité, quoi.
Ouais.
C'est l'objectif un peu pour moi de la grève, d'arrêter la productivité pendant un jour ou plusieurs jours.
Après, ça pose aussi la question de la branche, hein, parce que nous, tout le monde s'en foutrait. C'est sûr que tu bloques, je sais pas, tu bloques l'essence ou tu bloques l'administration ou les collèges. Là, les gens, enfin, forcément, ça va réagir.
Mouvement. Et que c'est quelque chose qui te prend de l'énergie, mais qui te remplit d'autre chose en fait. Parce que il y a un mouvement pour moi, il y a l'idée d'une transformation, quoi. Quelle qu'elle soit. Il faut quelque chose qui bouge. Donc du coup, ça remue à l'intérieur, ça te fait en même temps perdre et gagner. Et c'est un peu dans tous les sens, quoi. On passe émotionnellement, je trouve que quand on est en lutte, on passe par des émotions super diverses, quoi. Tu pleures, tu ris, il y a de la colère, c'est fou, en fait.
Et il y a de ça, de la question des liens, et je dirais, il y a aussi un truc magique, enfin, qui n'est pas très rationnel, mais de quand tu sens que ça prend. Et parce que, je sais pas, il y a un moment où t'es porté par une croyance collective. Tu vois, je pense vraiment qu'il y a de l'ordre de la croyance de... On est super puissant, quoi. On est super fort et on est comme une vague que rien ne pourra arrêter, quoi. Et alors là, tu t'y jettes à corps perdu parce que tu te dis, de toute manière, ça vaut tellement le coup et...
T'as l'impression que t'es en train de faire... Que si tu continues tes efforts, y a un truc qui va balancer ou craquer à un certain moment, quoi. Alors que sur le long terme, enfin bon, et peut-être qu'on peut rejoindre mouvement social et future révolution, tu vois, en parlant de ça. Alors que, il y a peut-être une idée, je sais pas, de sacrifice à un moment, quoi. Mais et ouais, pareil, aussi d'investissement en pensant que le futur sera un peu moins pourri ou carrément mieux, tu vois, je sais pas. Alors que sur le long terme, je pense que c'est pas tenable. Parce qu'aussi, en fait, au bout d'un moment, si tu continues comme ça, ça te détériore totalement tes cadres militants aussi. Et, et de fait, tes relations, dans la mesure où je milite plutôt dans des cadres affinitaires, quoi. Ouais, et c'est sûrement propre aussi au milieu, aux gens qui se réunissent principalement sur des cadres affinitaires, c'est que tout se mélange. Il n'y a plus tellement cette séparation entre privé, collectif.
Je pense que c'est toujours vital dans ces moments-là de jamais perdre de vue les gens qui ne sont pas inscrits dans ces mouvements-là et que ta vie ne peut pas se résumer à ça et de garder des petites bulles d'air de temps à autre parce que sinon tu peux décrocher de la réalité, te retrouver dans un entre-soi qui est complètement déconnecté de comment les gens de l'extérieur perçoivent ce qui se déroule. Et parce que une fois que la lutte s'arrête, quand bien même elle est gagnée, en général, t'en sors un peu abattu et un peu avec quelques quelques bleus, quoi. Plus la vague est puissante et plus tu t'y plonges, plus le plat ensuite que tu te tapes sur la figure est douloureux, quoi.
Bah, ça rejoint pas mal la question un peu, ouais, je sais pas, de la violence dans les enfin, je veux dire, de se faire violence parfois, quoi. À quel point on doit... À quel point parfois on s'impose des trucs qui nous font chier, et en même temps ça peut pas être toujours trop facile et trop lisse et donné. Et enfin, je sais pas, et là-dessus j'ai pas trop de réponse, je pense que c'est un équilibre à trouver, quoi. Faut pas devenir martyr de la lutte, mais faut pas non plus rester bien enfoncé dans son canapé à faire la révolution dans un café, quoi. Je sais pas.
Bras zéro, approche tes mains du micro.
Vivre en squat, ça t'a. Enfin. Pas forcément, mais de fait, ça t'invite à réfléchir tes manières d'agir, par exemple par rapport à ta consommation d'aliments qui va plus passer par la récup, ou par rapport à plus réparer des choses soi-même et pas faire appel à d'autres personnes, et tout ça. Enfin, tout ça, c'est des apprentissages qui me paraissent importants aussi. Dans un truc plus individualiste, c'est sûr.
Moi, je suis assez d'accord avec la définition que tu donnes, tu vois, que le squat en soi, c'est une lutte parce que. Bah déjà, le principe de squatter et de rentrer du coup dans une espèce de illégalité ou une illégitimité pour le plus grand nombre, ça pose quelque chose dans ton rapport à la vie quotidienne. Et en même temps, j'ai l'impression que, mais comme toute définition, ça a des doubles tranchants et ça a aussi, enfin, que des gens vont vivre le squat pas comme une lutte, mais comme un moyen ou...
Mais enfin, oui, c'est ça, c'est la question sur la vie quotidienne. Enfin, par exemple, je pense que j'ai déplacé ouais, mes trucs. Bah, bon, par exemple, en habitant notamment avec des enfants ou des adultes qui n'ont pas le même mode de vie que moi, je pense que je déplace... Enfin, voilà, et même voilà, sur des trucs tout pourris, comme vraiment de la vie quotidienne, de à quel point on est sensible... à des trucs de ménage et enfin voilà, et juste tendre à un truc où on choisit de vivre avec ces personnes là et après collectivement faut trouver des arrangements, etc., etc. Et oui, c'est pas grand chose en soi, mais à la fois c'est un peu déplacé, ouais, sortir de ces zones de confort. Côté où tu fais tout, où t'es à fond, où tu te sens plus dedans. Et du coup, ça c'est peut-être un peu dommage. Et même quand j'ai réfléchi, il y a d'autres amis, je pense qu'il aurait pu, pour qui il y aurait pu y avoir un tournant dans le monde militant à ce moment-là, mais qui se sont pas sentis à leur place de par le fait qu'ils avaient pas toute leur vie à donner et qui du coup ont pas... continuer vers cette voie-là.
Je pense qu'il y aurait deux facteurs qui sont le temps que j'aurais à dégager pour cette lutte, le fait de pouvoir avoir du temps et de pouvoir s'investir dans cette lutte, ça ce serait un des facteurs. Et le deuxième facteur, ce serait une lutte sur... Il faudrait que ce soit un truc qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire soit un truc qui me touche personnellement sur mon habitat, sur quelque chose qui a lieu dans ma ville, comme par exemple cette énorme tour qu'ils vont faire, ou alors qui est soit un sujet qui me touche particulièrement, comme par exemple la prison, sur la construction d'une nouvelle prison, où là vraiment ce serait un truc où je me dis c'est maintenant, et c'est maintenant, c'est tout de suite pour empêcher ça, quoi.
Tu vois, il y a des fois où t'y vas, t'es entre camarades, t'es entre militants, mais tu fais ton devoir. Voilà, t'y crois pas, mais t'y vas, et puis t'auras pas de regrets.
Il y a des choses, on va dire, je vais peut-être plus être sur un truc de... d'essayer de comprendre, de m'informer, de machin, mais que de fait, c'est pas mes luttes, et du coup... je les porterai pas. Enfin, il y a un truc aussi, réfléchir à sa position d'allié et à quel point c'est facile ou pas, et que parfois peut-être aussi faut faire gaffe à pas non plus à se dire je suis pas concernée, du coup ça me regarde pas, quoi. Et bon, c'est pas peut-être ce qu'on se dit, mais peut-être que parfois on s'installe un peu dans ce confort là, quoi.
J'ai l'impression de ne pas avoir revécu de lutte comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui me... Je suis dépassée, en fait. En fait, je suis dépassée par toutes les luttes qu'il y aurait à mener. Je sais, il y a peut-être d'autres trucs qui me viendront.
Il était une fois, dans un royaume pas si lointain, une personne nommée Blanche-Neige. Fille du roi et de la reine, elle faisait partie des personnes les plus privilégiées de ce monde, mais ne s'en rendait pas compte, et n'avait du monde extérieur qu'une pensée hautaine et lointaine. Blanche-Neige passait la plupart de son temps dans son château. Elle allait et venait, dans une solitude légère, parsemée de visites familiales et mondaines.
Un jour de printemps, alors qu'elle errait dans la grande et somptueuse bibliothèque du château, un épais livre d'un rouge éclatant tomba à ses pieds. Intriguée, elle le ramassa, l'ouvrit et le lut.
Ce livre lui plut tellement qu'elle retourna à la bibliothèque chaque jour durant 4 saisons et dévora, en un an, tous les livres du même rayon sur lesquels s'inscrivaient théories politiques et critiques. C'est ainsi qu'elle eut accès à des textes politiques divers, et son esprit devint au fil du temps clairement révolutionnaire.
4 saisons étaient passées, et Blanche-Neige se transforma. Désormais, elle épouserait la cause des plus démunis. Elle prendrait du recul sur sa vie et irait même jusqu'à devenir végétarienne. Les mois passèrent. Sa soif de théorie ne s'éteignit pas. Mais peu à peu, elle sentit naître en elle le besoin de lutter concrètement. Et ce, de plus en plus vivement.
S'échapper des mots,
disait-elle seule dans sa haute tour.
Afin d'enrayer le système capitaliste qui empoisonne le monde.
Un matin du mois de mai, les cerisiers étaient en fleurs, c'était le temps des cerises. Elle entendit des cris et des bruits à l'extérieur du château. Passant la tête par la fenêtre, elle aperçut une foule de nains passant devant sa demeure. Ce vacarme n'était autre qu'une manifestation organisée par le syndicat des nains mineurs, qui se battait contre la délocalisation des mines de charbon. Leur patron, le grand méchant loup, voulait licencier tout le monde et partir dans le royaume de Kronos, où le temps du travail coûte moins cher.
Les nains virent Blanche-Neige et crièrent dans le mégaphone.
Cesse de nous regarder, rejoins-nous!
En entendant cela, son sang ne fit qu'un tour. Elle descendit en courant les 584 marches de son escalier en colimaçon et se glissa dans le cortège syndical. Après la manif, elle resta avec les nains. Aussi le jour suivant, et même le surlendemain, Blanche-Neige finit par passer le plus clair de son temps dans la lutte, s'investissant totalement dans le syndicat, se mettant à écrire des textes, des slogans. À la fin du mois de mai, après un mois de lutte, Blanche-Neige décide de quitter son château et ses privilèges et part vivre avec les nains dans leur maison.
Le temps passait, et pour la première fois de sa vie, elle se sentait utile à d'autres. En effet, pendant que ses camarades passaient leur journée entière à tenir les piquets de la grève, elle gérait le lieu, faisait des récup avec tous les animaux, s'occupait d'une grande partie des tâches ménagères, photocopiait les tracts et préparait le repas de ses braves grévistes. Lorsqu'ils rentraient enfin, elle discutait avec eux de la lutte et enrichissait les débats de toutes ses connaissances. Ils la considéraient comme une vraie mère.
Le temps passait encore, et à son grand désespoir, après 8 mois de lutte, elle n'avait encore jamais participé à une action directe. Elle avait déjà demandé 1000 fois si elle pouvait accompagner les nains. Mais les réponses étaient toujours les mêmes, paternelles et sans pitié.
C'est dangereux pour une jeune et jolie jeune femme comme toi. On ne voudrait pas que tu t'abîmes.
Tu sais, Blanche-Neige, parfois il faut courir vite. Et puis tu es indispensable à la maison.
Ben ouais, qui nous ferait notre casse-croûte d'après manif si t'étais pas là?
Puis tu sais, les nanas, ça leur va pas trop la cagoule.
Jusqu'au jour où il se passa quelque chose. Et ce quelque chose commença comme un rien du tout. Ce qui d'ailleurs est souvent le cas des quelque chose. Ce quelque chose commença donc lors d'une grande assemblée générale qui réunissait, comme chaque semaine, les gens du royaume et plus loin encore.
Bon, c'est vrai qu'au début, c'était comme d'habitude. Il y avait des nains, des elfes qui expliquaient aux autres comment doit s'organiser la lutte et en définitive, qu'est-ce que ça voulait dire lutter. Blanche-Neige était un peu à bout, c'était toujours pareil. Elle avait de plus en plus l'impression que cette histoire ne menait nulle part.
Tout à coup, elle entendit une voix au loin.
Blanche-Neige, Blanche-Neige!
Elle se retourna et vit 2 silhouettes. Celle d'un petit cochon à l'air sympathique et celle d'une petite fille à la cagoule rouge.
Et les amis, vous les avez reconnus? Vous vous souvenez? C'est Nouf Nouf et la petite cagoule rouge qui se sont fait remarquer dans la région voisine pour leurs actions dignes de contes de fées.
Ils interpellèrent Blanche-Neige.
T'en as pas marre d'entendre parler tout le temps les mêmes personnes?
T'as pas envie d'agir toi aussi?
Viens, on va leur dire le fond de notre pensée.
Après une discussion passionnante avec Blanche-Neige, les trois complices rentrèrent dans la salle plus déterres que jamais.
Dans la salle, la discussion de l'Assemblée Générale tournait en rond. 3 heures pour décider si le blocage durerait 1 heure ou 1 heure 10, s'il fallait prendre des saucisses ou des merguez. Et pour l'instant, tout ça n'avait servi à rien. C'est alors que nos trois amis décidèrent de prendre la parole.
C'est quoi votre délire avec votre piquet de grève tout pété là? Faut passer à la vitesse supérieure.
Grève, blocage, sabotage, manif sauvage.
Intéressés ou interpellés, tous les membres de cette joyeuse réunion se mirent à écouter les récits de Nouf Nouf et de la petite cagoule rouge. Les actions collectives sur les lieux de travail qu'ils avaient bloqués, les actions d'autoréduc qui avaient mis un sacré coup au supermarché du grand méchant loup.
Dans l'assemblée générale, leur récit posa quelque chose d'assez étrange. D'abord, il y eut comme un silence grondissant. Puis, les gens commencent à chuchoter de plus en plus fort.
Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal.
On sentait que quelque chose prenait, comme un étrange feu qui commencerait à brûler.
Au bout d'une semaine, le discours éloquent de nos complices faisait son effet, même sur les nains. Ils commencèrent à s'autogérer, et une grande partie des nains et des elfes s'organisaient désormais en dehors des cadres syndicaux. Ils organisaient des AG indépendantes, lançaient des appels à rassemblement et prenaient les têtes de cortège pendant les marches syndicales.
Même que souvent ça partait en manif sauvage, voire en grosse émeute et qui défonçaient tout avec leurs pioches de mineurs.
Les médias se servaient de ça pour faire de la propagande, en les désignant comme des groupuscules de casseurs anarchistes d'extrême gauche. Mais les nains n'en avaient plus rien à foutre de leur image médiatique et continuaient de cramer des trucs à leur guise en chantant
« On est tous des casseurs mineurs, sifflés en émeutant. »
Non mais, ah, stop! Mais ça devient n'importe quoi. Enfin, là, ils viennent hyper violents. Enfin, je veux dire, c'est hyper trash, quoi.
Ouais, bah en même temps, la violence, elle vient du grand méchant loup. Du coup, c'est légitime.
Ah ouais, non, mais attends, c'est légitime. En même temps, s'ils cassent tout, comment tu veux qu'ils trouvent du soutien après? Enfin, je veux dire, ils peuvent pas faire tout seuls, quoi.
Non mais attends, c'est bon, on va pas passer deux plombes là-dessus. On retourne au compte. C'était le 10e mois de la lutte, et depuis 2 semaines, tout s'activait, mais toujours pas pour Blanche-Neige.
Ah ouais, c'est bien beau l'autonomie politique, mais l'autonomie pour qui? Moi qui croyais que sortir des idérances des syndicats les ferait évoluer, ils sont toujours aussi cons, hein, toujours aussi bornés.
Blanche-Neige, c'est dangereux pour toi, reste ici.
Eux ils disent autogestion, mais ils croient qu'ils s'autogèrent tout seuls le ménage du squat. Et ce soir, hein, c'est qui a tout prévu pour la soirée de soutien des mineurs incarcérés?
Le soir même, à la soirée de soutien, alors qu'elle venait de finir de ramasser les assiettes éparpillées aux 4 coins de la salle, Blanche-Neige sort fumer une clope avec Petite Cagoule Rouge. Très vite, en discutant, elle se rend compte qu'elle partage beaucoup d'expériences similaires et qu'elles sont loin d'être seules dans ce cas-là.
Jasmine, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Podane, toutes sont exclues des actions directes par les camarades machos.
Pour pouvoir s'organiser loin des gros bolos sexistes qui pensent avoir tout compris à la lutte, elle décide d'organiser des actions entre elles, des actions non mixtes. À la fois pour dénoncer le problème de la délocalisation de la mine, mais aussi pour révéler les problèmes de sexisme, notamment dans la maison des nains autogérés. Non mais attends, là je comprends pas, parce qu'elles font des actions contre l'exclusion des filles, et au final c'est des actions non mixtes. Si les mecs qui participent pas à ça, ils vont rien comprendre du tout, et ils vont pas changer quoi.
Non mais en fait, ça fait des mois qu'elles essayent de faire comprendre aux gars que ça marche pas du tout cette histoire. Forcément, à un moment, elles s'organisent,
bah ouais, il faut les faire participer, enfin je veux dire,
bon,
si tu t'organises...
Vas-y, on reprend le compte, là on va perdre tout le monde, hein.
Le premier matin du mois d'avril, après quasiment 1 an de lutte, le loup fit une déclaration publique.
Nains de tous les pays, je vous ai compris. J'ai entendu votre demande. La mine ne sera pas délocalisée et vous garderez vos emplois. Fiers nains, vous êtes la lueur brûlante de notre nation.
Et dans le pays des nains, tout est bien. Qui finit bien.
qui finit bien, mais enfin, pour moi, ça finit pas bien du tout. Enfin, il continue à se faire exploiter, là, en travaillant encore à la mine.
Ouais, mais bon, enfin, c'est un compte, faut bien que ça finisse bien, quoi.
Non, puis au final, ce qui est important, c'est tout ce qu'ils ont créé pendant le mouvement. Ils ont ouvert des maisons, ils ont fait des trucs ensemble, ils se sont rencontrés, quoi.
Non, mais là, c'est pas fini du tout. Ils ont gagné une bataille, encore toute une guerre à mener. Enfin, je veux dire, il y a 1000 sujets qui doivent discuter, emporter.
Ça fait 6 mois qu'ils sont en grève, là. Tu luttes, quoi.
Non, mais c'est bon, il n'y a pas que le problème du sexisme. Si au bout d'un moment, ça s'ouvre, quoi. Je veux dire, le truc à prioriser. Enfin, je veux dire, d'abord la lutte.
J'ai jamais vu ça continuer mal, ça gagnera jamais.
Te dedique esta canción, mi vieja, gózate en el cielo. A la huelga madre yo voy también. Se viene mi pueblo bailando la cumbia. Y a la huelga. Pa, 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 pa. Cumbia, cumbia. Cumbia, proleta.
En lutte collectivement et individuellement, oui, aujourd'hui je pense que je me sens en lutte dans la mesure où j'essaye de déconstruire des choses en moi, et enfin pareil, enfin juste je pense qu'on peut se dire en lutte à partir du moment peut-être où on réfléchit et on prend pas comme acquis tout ce que la société nous offre et nous livre ou nous impose. Et du coup, sur ma place dans ce monde, et comment je peux arriver à déconstruire ce qui m'est imposé, par exemple en tant que meuf, et au contraire, sur en quoi parfois j'ai une position plus privilégiée, et comment je peux mettre mes privilèges peut-être au service d'autres gens. Ou truc comme ça. Et du coup, voilà. Après, enfin voilà, par exemple, en habitant en squat, je me sens un peu en lutte parce que par exemple, voilà, je mets de côté mon confort et ça me permet de pas travailler et du coup de dédier plus de temps à des choses militantes. Et après, voilà, mon militantisme, enfin par, voilà, je sais pas si aller en manif ou des trucs comme ça, c'est vraiment être en lutte. Et ça, c'est un peu galère. Enfin, parfois, je pense que c'est plus de la sociabilité, se donner de la force à nous-mêmes que vraiment être en lutte contre un système. Mais...
Bon, j'ai l'impression qu'à mon échelle, la lutte individuelle, elle est rare et qu'elle s'est toujours posée collectivement. Que ce soit parce que c'est dans ton cadre de travail, que ce soit parce que c'est dans ton cadre de vie, ou parce que généralement, on est dans des pseudo-milieux militants où on est plusieurs. De fait, on n'est pas seul.
Mais il faut de l'énergie. Ça demande de l'énergie. En fait, la lutte, elle demande de l'énergie. Parce que des fois, c'est plus facile de se faire emporter par le courant plutôt que d'aller en contre-courant. Donc, il faut de l'énergie, faut des arguments, faut construire son raisonnement, faut se défendre. Tout ça, ça se travaille. Tout ça, ça demande du temps et du temps de l'organisation. Beaucoup d'énergie.
Il faut se mettre en jeu. Et du coup, on se met pas en jeu seulement en pensant qu'il faut être en lutte, quoi. On se met en jeu en ouvrant des bâtiments, en rencontrant des gens, en faisant des bouffes, en allant se friter contre des fachos. Enfin, en fait, il y a plein de manières. Et là, c'est hyper réducteur ce que je dis parce que c'est vraiment que un truc que je lis sous le prisme d'un engagement politique, un peu genre engagement militant, tout ça. Mais il y a plein d'autres manières d'être en lutte. Mais bref.
Comme.
Bah, je sais pas. Pour moi, tu vois, la lutte, elle peut se retrouver dans le secteur du travail où il y a des gens qui se mettent en lutte en faisant des grèves ou en essayant de contrer des directives institutionnelles ou... Enfin, en fait, j'ai l'impression que à chaque fois que tu essayes de mettre, par exemple, des bâtons dans les roues des trucs qui te sont imposés, notamment par l'État, par exemple, et ben voilà, tu commences à être en lutte, quoi. Du coup, je sais pas, être en lutte, ça peut aussi vouloir dire saboter des machines, ou pas forcément saboter des machines, mais je sais pas, faire des petits actes de résistance, quoi. Mais pour moi, la lutte, c'est pas que la résistance, parce que c'est pas que un truc de contre, en fait. Enfin, c'est pas que une réponse à quelque chose, en fait. Enfin, contre quelque chose. C'est à la fois... de la destruction, des petits actes de destruction, et à la fois des actes de construction. Et c'est un mouvement perpétuel entre les deux, en fait. L'un ne va jamais sans l'autre.
N'écoutez pas, bras zéro !
Je suis pas sûre que j'y ai réfléchi sur le coup. C'est quand on pose la question de qu'est-ce qui ferait que je m'investirais une plus à des moments donnés ou que je m'investirais uniquement dans une lutte, il me semble que c'est dans la mesure où celle-ci me ferait du bien, ou que j'aurais la sensation qu'elle apporte du bien. Si c'est pas le cas, c'est compliqué de tenir sur du long terme des luttes. C'est voire impossible.
Et des fois, j'aime bien être... j'aime bien le calme, quand même. J'aime bien la tranquillité, j'aime bien que les choses soient apaisées. Donc là, forcément, faut aller au-devant, faut discuter, faut parlementer, faut... Après, quand on parlemente et puis qu'on arrive à avoir gain de cause, c'est très satisfaisant. Oui, ça fait plaisir. Quand on défend un droit, quand on a une conviction, qu'on la défend et qu'on arrive à la faire accepter et qu'on arrive, on gagne, oui, c'est plaisant. C'est une satisfaction personnelle, du coup. C'est dommage d'en arriver. En fait, la lutte, oui, moi je suis pas. J'aime pas me battre, j'aime pas ça. Je préfère arriver aux choses. J'aime bien les compromis, j'aime bien que les choses soient faites, acceptées. Et quand on en arrive à une grève, c'est dur quand même, je trouve ça. Ça met tout le monde en difficulté. Donc. C'est dommage d'en arriver aux grèves. Oui, c'est fort. Ouais. Et ben, quand les discussions n'apporte rien et que finalement ça reste le seul moyen pour se faire entendre. Des fois on est dans une impasse, on arrive aux grèves.
Un truc qui est un peu compliqué pour moi aussi, c'est que je me retrouve face au salariat. Et là, j'ai vachement de mal parce que je suis... alors, est-ce que je suis en lutte ou est-ce que je suis inadaptée ou est-ce que c'est ce monde qu'il est? Mais j'ai toujours été dans quelque chose de l'ordre d'une lutte. Avec, effectivement, déjà reconnaître un patron, même si je bosse beaucoup dans le milieu associatif, le pouvoir de l'autre, une place, être dans une place et un rôle assigné. Oh là là, c'est une lutte permanente.
En fait, c'est bizarre parce que du coup, j'ai l'impression d'être... Quand je te définis les choses, j'ai l'impression d'être toujours dans un truc de contre, alors que c'est pas vraiment ça que j'aimerais être, mais peut-être que c'est ça que je suis, mais... En tout cas, ce qu'on essaye de faire, c'est un peu de penser nos vies avec une éthique différente, de ce que ça pourrait être... hors du capitalisme, des rapports de pouvoir, des rapports de domination. Notre vie, elle s'inscrit aussi dans un processus qui vise à détruire... c'est un peu prétentieux de le dire comme ça, mais en tout cas, à détruire le système capitaliste, quoi. En tout cas, à vivre sans ce système-là et à prouver que ce système-là, il est invivable et il est pas désirable, quoi. Et du coup, évidemment que les gens qui s'efforcent de montrer les contradictions, les failles de ce système-là, même si le mot système, je l'aime pas trop, mais bref, ils sont forcément un peu dangereux et du coup s'ensuit une répression, etc., etc. Et du coup, c'est sûr que... Tu peux pas te penser, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu peux pas te penser autrement que dans un mouvement perpétuel de destruction-construction. Parce que sinon, il faut faire de la place, quoi. Tu vois, pour faire du neuf, il faut faire de la place. On n'entre pas dans un nouveau monde sans effraction.
Gendarmerie nationale, dernière sommation, dispersez-vous, on fait usage de la force.
Bon moi je vais faire une spéciale dédicace à Nono, Ruxu, Pablo, Léo et Nini.
Voilà, c'était Brasero et il nous a manqué ce soir Marie et Juju et il nous manque trop, donc big de love, big de dédicace.
Big up. Grave, des gros bisous.
Vous nous manquez.
Casse dédié.
Et puis moi, casse dédié à mes copines de la maison, particulièrement à Lison, à Louise et à Mathilde parce que vous êtes au top.
Big up. Love.
Big up. Aïe.
C'était Brasero, c'était Brasses Radio, c'était 92.2, c'était Canal Sud, c'est fini. Et la semaine prochaine, on parlera élections 2017, police et démocratie. Et peut-être dans 15 jours, on aura encore une émission sur la lutte.
Salut,
au revoir,
à bientôt.
Ci siamo innamorati, correvamo.
stringe il cuor, bang bang, rivedo te, bang bang, che spari a me, bang bang, quel suono sai, bang bang, non lo scorderò mai.
Voilà, c'est fini, Bras Zéro. La suite, c'est...